Vous écoutez RTL.
En attendant, la curiosité est un vilain défaut, c'est avec Thomas Hugues et avec vous, Sidonie Bonnec.
Oui, on va se passionner pour le destin de la fille qui a vu la Vierge, Bernadette Soubirous. Ça se passe au milieu du 19e siècle à Lourdes et aujourd'hui, une comédie musicale va lui être consacrée. On vous racontera son histoire vers 14h30.
Allez, tout de suite, on s'offre des pierres précieuses sur RTL.
Je m'appelle Claudia Vons et le jade, c'est ma passion.
RTL.
Accompagné d'une équipe de professionnels, Ron explore des régions semées d'embûches à la recherche de la perle rare.
Shine bright like a diamond.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Près du Yukon, à Jade City, se trouvent les plus gros gisements de jade néphrite de la planète. Et les Chinois en raffolent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une curiosité qui brille de mille feux, les pierres précieuses au programme, vous l'avez entendu, on est ensemble jusqu'à 15h, comme tous les jours, du lundi au vendredi sur RTL. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, salut à tous. Notre curiosité est sans limite, vous le savez, ces derniers jours, on a raconté le destin de Claude François, on a découvert la face cachée du sucre, partagé la vie quotidienne des Romains de l'Antiquité, et aujourd'hui, c'est l'univers des bijoux qui nous ouvre ses portes.
Bonjour Pierre-Antoine Simon.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue. Il y a quelques semaines, on a vu passer une histoire d'arnaque au diamant sur Internet. Ça nous a donné envie de vous inviter. Vous êtes négociant en pierres précieuses et vous pouvez aussi alerter sur les dangers des achats sur Internet. C'est quoi exactement votre métier ?
Négociant en pierres précieuses ?
Oui.
J'achète des pierres précieuses au Sri Lanka ou en Thaïlande, en Birmanie. Et je les revends en Europe, retaillés, aux États-Unis. Voilà, c'est ça, marchand de pierres précieuses.
Acheter des pierres sur Internet, c'est de la folie ?
Acheter des pierres sur Internet, ça me semble très risqué. Oui,
on n'a pas de gage, c'est ça, de qualité de la pierre quand on achète sur Internet ?
Ça me semble complètement impossible. Je veux dire, on ne peut pas acheter une pierre sans la toucher, sans la voir à la lumière du jour, sans avoir en face de soi un professionnel. Ça me semble risqué, quoi.
Pierre-Antoine voilà. Simon va voyager jusqu'au Sri Lanka avec vous, grâce à vous. Mais d'abord, plus près de nous, on imagine une vente aux enchères.
Oui.
Où est-ce qu'elles se déroulent, ces ventes aux enchères ?
Alors, la France est un pays où il y a des salles de vente pratiquement dans toutes les villes. Mais en particulier à Paris, il existe Drouot, qui est un endroit quasiment unique au monde. À Drouot, il y a 15 salles.
C'est un immeuble entier presque,
c'est un immeuble
sur plusieurs étages
entier qui a été refait il y a quelques années. C'est un bâtiment donc avec 15 salles où se déroulent tous les deux jours 15 ventes. Voilà, donc il y a un jour, on va dire le lundi, exposition, et le mardi, il y a vente.
Il y a un jour des pierres précieuses, il y a un calendrier comme ça ou...
Ah non, il n'y a pas de calendrier, ce sont des ventes, on vend aussi bien des tableaux que des verres, que des armoires normandes, on vend des bijoux, on vend tout à Drouot, et c'est unique au monde.
Et donc vous pouvez aussi bien aller à l'autre bout du monde, au Sri Lanka, pour trouver des pierres, ou alors à Drouot, mais qu'est-ce qui fait que vous allez être sur la piste d'une vente aux enchères en vous disant, tiens, il faut que j'y aille, il y a des pierres à vendre, comment ça marche ?
Alors, aujourd'hui, grâce à la numérisation, on peut aller sur Internet et trouver assez facilement les catalogues de vente. Aujourd'hui, c'est très bien fait. Vous pouvez avoir les photos des objets, les descriptions, les estimations. Mm-hmm. Et vous pouvez faire ça du fond de votre canapé, comme je le fais en général le dimanche. Dimanche après-midi, je fais ça, je regarde. Et puis après, je peux me déplacer. S'il y a vraiment une pierre importante, une pierre qui me plaît, en tout cas, je me déplace, ou un bijou qui me plaît, je me déplace, je vais chez les experts et je vais regarder les pierres.
Pas seulement à Drouot, ça peut être un peu partout en France.
Ça peut être un peu partout en France, mais en règle générale, les pierres importantes sont montrées chez des experts parisiens.
Mais d'accord. Vous y allez pour vous, vous l'achetez pour vous, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent à mettre à avancer, ou alors vous l'achetez pour un client déjà ?
Non, j'achète pour moi.
Et vous revendez après ?
Et je revends après, oui.
D'accord.
Je suis, en fait, quand je dis que je suis marchand, je ne suis pas courtier. Il y a une différence entre le courtier qui achète pour un tiers et le marchand qui achète pour soi. Quoi. Enfin, j'achète les pierres parce que je les trouve belles et parce que je pense que je vais pouvoir en tirer un bénéfice.
Comment ça se passe quand il y a une vente aux enchères ? Vous espérez que personne d'autre a repéré la pierre pour l'acheter le moins cher possible, c'est ça ?
Alors, en général, les pierres sont annoncées, les pierres importantes, tout le monde le sait, justement, avec Internet. Mmh. Il n'y a plus beaucoup de secrets. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de repérer une pierre au milieu d'armoires normandes et de tout un tas de bric-à-brac, une pierre que je pensais être le seul à avoir trouvée. Et donc, je me suis, au moment de la vente, je me suis caché derrière une armoire en me disant, bah, je vais attendre et puis j'espère que personne ne l'a vu. Donc, j'ai le souvenir d'avoir eu très, très chaud ce jour-là parce que j'étais caché avec mon manteau. Je disais, si on me voit, ils vont savoir qu'il y a une pierre ici. Et puis, finalement, un autre marchand est rentré. Et bon, bah, on s'est disputé la pierre. Finalement, j'ai pu l'acheter.
À combien?
On pose les mêmes questions.
Franchement,
une fourchette, c'est combien? Vous devez débourser combien? C'est des dizaines de milliers d'euros? On n'a pas trop la notion.
Ça peut être 5000 euros, comme ça peut être 500 000 euros. Il y a des pierres très importantes qui passent à Drouot.
Et après, quand vous les revendez à une marque, par exemple, ils vous les rachètent 10 fois plus cher?
Non.
Ça serait trop
une
beau.
Fois plus, une fois et demie plus cher?
Ça dépend. Je peux acheter des pierres dans de très bonnes conditions, on va dire, ou alors je peux les payer très cher parce que je les trouve très belles. Mon père me dit toujours, je préfère que tu me ramènes une belle pierre très chère qu'une pierre moyenne, même bon marché et bien achetée. Voilà.
Parce que chez vous, on est revendeur, marchand de pierres précieuses de père en fils pour dénicher ces pierres de qualité. Vous voyagez donc loin, notamment jusqu'au Sri Lanka. On vous emmène au pays des saphirs sur RTL. Restez avec nous.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre sur RTL? Des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenant, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec Pierre-Antoine Simon, acheteur et vendeur de pierres précieuses. Grâce à vous, on découvre les coulisses d'un métier fascinant et aventureux aussi. Par exemple, quand vous allez au Sri Lanka, vous nous racontez le voyage pour commencer ?
Sri Lanka ?
Oui.
Oui, je peux vous raconter le voyage. Déjà, c'est un pays assez difficile d'accès. Il y a peu de vols. Donc, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. On le prépare. Voilà, c'est un endroit où je vais 4-5 fois par an acheter des saphirs. Voilà, le Sri Lanka, c'est vraiment une petite île à la pointe sud, de l'Inde. Capitale est Colombo.
Donc, un avion pour Colombo. Et après ?
Un avion pour Colombo. Oui, enfin, faudrait partir de Londres, mais en général, on passe toujours par Dubaï, vous savez. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Voilà, on passe par Dubaï, on arrive à Colombo, et je pars toujours avec plein d'images dans la tête, parce que on trouve des saphirs de toutes les couleurs là-bas.
On les trouve dans la forêt ou sur les marchés, dans des boutiques ?
Non, on les trouve chez des négociants. Ouais. Chez des négociants. Donc je pars toujours avec 1000 couleurs dans la tête. Moi, c'est vraiment mon grand plaisir, c'est ça, c'est de me dire je vais pouvoir trouver des saphirs bleus, des saphirs jaunes, des roses, des violets, des rouges. À ce moment-là, ils deviennent rubis, c'est la même pierre. Hein. Le saphir et le rubis, c'est la
D'accord.
même pierre, c'est du corindon.
Je ne savais pas.
Du corindon ?
Oui.
C'est la matière ?
C'est la matière, oui. Ouais. Quand il atteint un certain degré de rouge, ça devient le rubis.
Hein. Bon alors, allez, on finit le voyage. Vous arrivez à Colombo. Là, il faut prendre quoi ? Un bus, une voiture, un 4x4, une pirogue
Non.
Enfin, une trottinette.
Je caricature.
On reste à Colombo, où sont installés tous les principaux négociants en pierre. Alors, je travaille avec un courtier. Qui me suit pendant tout le voyage et qui me, on va dire, il est là pour me protéger, il est là pour m'aider, il est là pour m'aider à négocier. En fait, j'ai pas vraiment besoin de lui. En fait, ce qu'il fait, c'est que je vais voir les différents négociants et lui, il met tout dans une boîte à la fin du voyage et il m'envoie tout en un seul paquet. Voilà, c'est plus simple.
Est-ce que vous pouvez vous faire avoir ? Est-ce qu'on essaye de vous refiler des saphirs, de faux saphirs d'ailleurs ? Est-ce que ça existe ?
Alors, oui, il y a des faux saphirs. Est-ce qu'on essaye de me les refiler ? Je ne pense pas de façon volontaire.
Ou des pierres de mauvaise qualité, peut-être ?
Alors, des pierres de mauvaise qualité, mon œil sert à ça. Je fais tout pour ne pas acheter des pierres de mauvaise qualité. Je me promène juste avec une loupe et une lampe.
Et qu'est-ce qu'on voit alors ? Comment on sait qu'un saphir est beau et vrai, est une belle pierre ?
Alors, la beauté d'une pierre de couleur, en tout cas, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est sa couleur. C'est ce qui compte le plus. Après, on prend la loupe, on regarde à l'intérieur, ce qu'on appelle les inclusions, c'est-à-dire les défauts qui sont dans la pierre, peuvent être acceptables ou non acceptables. Si c'est acceptable, je peux entamer une négociation. Si la pierre est parfaite, évidemment, j'essaye de l'acheter. Mais ce qui compte, c'est mon œil. Il est évident que je ne paye pas les pierres avant d'avoir eu la certitude. Je l'ai fait passer en fait dans un laboratoire de retour à Paris. Je l'ai fait passer dans un laboratoire parisien pour être certain que les pierres soient bonnes, non chauffées.
Non chauffées, ça veut dire quoi ça ?
Alors, 95%, on va estimer ça à 95% des pierres aujourd'hui, des saphirs en tout cas, sont chauffées. On les chauffe pour modifier la couleur, pour en intensifier la couleur et pour faire disparaître certaines inclusions. Moi, j'achète pas de pierres chauffées.
Pourquoi ça l'abîme ?
Non, c'est parce que tout simplement parce que les clients qui m'achètent les pierres, les boutiques qui sont installées Place Vendôme, hein, en règle générale, et rue de la Paix, ces maisons-là n'achètent pas de pierres chauffées.
Donc les grandes marques du luxe.
Les grandes marques du luxe n'achètent pas de pierres chauffées. Donc je n'achète pas de pierres chauffées. Et puis parce que par tradition, on en revient à ce que me disait mon père, tu n'achètes que des belles pierres.
Vous avez toujours sur vous des petites pierres précieuses dans la poche. Pourquoi ?
Je transporte avec moi, des échantillons, des toutes petites pierres dont la couleur est, d'après moi, quasiment parfaite.
Vous nous montrez ?
Hein ? J'en ai pas avec moi, là.
Ah. Parce que vous n'êtes pas venu pour acheter.
Parce que je ne suis pas venu pour acheter.
Et elles vous servent quoi ? À étalonner la couleur des
Alors,
pierres ?
Il faut savoir que la lumière en Asie, et particulièrement au Sri Lanka, est très... très froide, c'est une lumière très froide le matin, très blanche, et à partir d'une certaine heure, midi, 13h, la lumière devient rouge, le soleil devient rouge, et a tendance à modifier la couleur des pierres. Alors un saphir rose va paraître beaucoup plus rouge, plus intense que ce qu'il est en réalité quand on revient ici. Donc on transporte comme ça une pierre bleue, une pierre rose, une pierre rouge, ça nous permet d'étalonner en fait, ça nous permet... d'être un tout petit peu plus juste sur la couleur.
Acheter des pierres précieuses au Sri Lanka, en Thaïlande ou en Birmanie, c'est parfois toute une aventure. Course-poursuite et guérilla au programme. A tout de suite les curieux sur RTL.
RTL.
Diamants, émeraudes, saphirs, rubis, ces pierres précieuses réputées pour leur beauté le sont tout autant pour leur prix.
Diamonds are forever.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Un tiers de million pour cette pierre.
Il faut qu'on y aille. Une nouvelle mine, c'est incontournable.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité, c'est votre émission de découverte sur RTL. Ici, on aime se cultiver dans la bonne humeur. Histoire, science, saga musicale, grand destin, produit de rêve ou du quotidien. Notre curiosité n'a pas de limite et justement, on dévoile les coulisses du marché des pierres précieuses grâce à notre invité Pierre-Antoine Simon. Les pierres, on en discutait à l'instant, elles ont une couleur, c'est ce qui fait leur beauté et leur valeur. Est-ce qu'il y a un bon moment pour porter une pierre ? Par exemple, un saphir, ça se porte le jour ou la nuit ?
Plutôt le jour, c'est une pierre de jour qui va s'améliorer, la couleur de la pierre va être plus chatoyante sous le soleil, voilà. Alors que le rubis est une pierre qui va s'améliorer avec la lumière artificielle, principalement la lumière jaune, c'est-à-dire les anciennes ampoules, celles qu'on utilise de moins en moins, améliorer la couleur.
Et l'émeraude, alors on la met quand ? Tout le matin au réveil ? Parce que deux diamants par jour, ça me semble pas assez.
Se mettre de bonne humeur. Mais c'est ça, Sidonie, elle fait la liste de toutes les pierres qu'elle va demander à son amoureux. Et pour aller chercher ces pierres précieuses, vous voyagez beaucoup, Pierre-Antoine Simon, et donc notamment au Sri Lanka, on y était avec vous à l'instant. Il faut que vous nous racontiez une anecdote. Un jour, vous revenez vers la capitale, je crois, en voiture, Colombo, et il y a un gars qui vous poursuit. Voilà. Alors comment il vous poursuit et pourquoi ? Moyen de transport, lui ?
Il y a une sorte de, on va appeler ça un marché... Dans une ville à environ 3 heures de route de Colombo qui s'appelle Berwala, qui est une ville au bord de l'eau où toutes les pierres qui sont trouvées dans les mines, en général les grandes familles de marchands habitent cette ville et donc toutes les pierres sont rapatriées dans cette ville. Et même si c'est pas un endroit où on trouve beaucoup de pierres, parce qu'aujourd'hui les grosses pierres sont rapatriées plus vers Colombo. J'aime aller à Berwala parce que c'est un endroit vrai, c'est un endroit où vous rencontrez les gens, c'est un endroit où vous pouvez parler avec eux.
C'est quoi la première question qu'on vous pose quand vous arrivez ?
Alors la première question qu'on me pose quand j'arrive au Sri Lanka, c'est quand repars-tu ? Alors pourquoi on me pose cette question? En général, je pars du samedi au samedi et je leur réponds toujours, bah, vous savez, je vais repartir mardi ou mercredi. Alors ils me disent, mais tu restes que 2-3 jours. Alors je leur dis, bah oui, 2-3 jours. Parce que si vous leur dites que vous partez les samedis, en général, le lundi vous montre rien, le mardi vous montre rien, le mercredi vous montre rien. Et puis ils attendent le jeudi pour sortir les pierres. Oui. Donc le Sri Lanka n'étant pas un endroit très amusant, enfin c'est pas non plus voilà, c'est pas très drôle, donc c'est sûr que si le mercredi ou le jeudi vous n'avez rien trouvé, vous commencez à déprimer un petit peu, voilà, donc je leur dis, voilà, je pars mercredi, comme ça ils me sortent les pierres.
Ils remontent les pierres rapidement, sauf que parfois ils vont pas les pierres tout de suite, et alors justement ça explique cette espèce de course-poursuite là en revenant vers Colombo. Qu'est-ce qui vous arrive ?
La course-poursuite, alors ce marché a lieu une fois par semaine, le mercredi matin, donc on va avec mon associé au marché à Berwala, on achète des pierres, parfois on négocie, on n'arrive pas au prix que le marchand demande, et on repart sans certaines pierres. Ouais. Bon, et nous voyageons à bord avec un taxi qui nous ramène vers Colombo, c'est 3 heures de route. C'est passablement dangereux. Les Sri Lankais ont une façon de conduire assez éloignée de la nôtre. Et puis, un jour, le chauffeur de taxi reçoit un coup de téléphone et nous dit « Il y a un type qui nous poursuit en mobylette. » Alors, on a dit « Mais qu'est-ce qu'il veut ?» C'est bizarre. Et arrivé un feu rouge, il y a quelques feux rouges, quand même, en arrivant à Colombo. Il ouvre très légèrement la fenêtre et en fait, une pierre qu'on avait essayé d'acheter, qu'on n'avait pas pu acheter, le type nous poursuivait avec sa mobylette et il nous l'a jeté dans la voiture comme ça. Il a dit, c'est bon, vous l'avez, vous êtes livré.
Finalement, le prix est le bon, quoi, c'est ça, le prix que vous aviez demandé.
En fait, je pense qu'il devait regretter. Il s'est dit, je vais essayer de tirer. Puis voilà, on essaye de négocier quand même.
Pierre-Antoine Simon, ça pousse où les pierres précieuses? Dans des mines?
Ça pousse dans des mines, voilà. Ça pousse dans des mines. Alors, on peut les trouver dans le lit des rivières, ou alors, vous avez des trous comme ça d'à peu près 30 cm sur 30 et il y a des hommes qui descendent au fond de ces trous à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres.
Ça se présente comment ? C'est ce saphir par exemple dans les mines ?
Alors le saphir quand il sort de la mine, c'est comme un caillou que vous allez trouver au bord d'une plage. C'est un caillou complètement irrégulier, en général assez mat. Et c'est ce qu'on appelle une pierre brute. Alors moi je n'achète pas de pierre brute parce que c'est un autre métier. Les gens qui achètent la pierre brute, ils n'utilisent pas de loupe parce qu'on ne peut pas voir à travers la pierre. Donc ils utilisent une lampe, ils regardent la pierre et grâce à leur lampe ils arrivent à l'acheter. Le brut, acheter du brut, c'est un pari. Je suis pas très 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 joueur. Les deux seules fois où j'ai essayé d'acheter du brut, j'ai perdu de l'argent. Donc voilà, moi j'achète des pierres taillées, ce qu'on appelle fasté en fait.
Pierre-Antoine Simon, en achetant des pierres, vous avez même été menacé de mort. On vous raconte où et comment dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Toujours avec Pierre-Antoine Simon sur RTL, notre invité marchand, négociant de pierres précieuses. Est-ce que c'est un métier à risque ?
Disons, je suis pas un aventurier, mais il nous arrive de prendre des risques, oui. Déjà, en allant au Sri Lanka, c'est un pays qui a été en guerre depuis 1972. Donc, j'y suis allé même pendant ce qu'on va appeler les événements. J'ai jamais eu peur, en fait. Même si je sais très peu de touristes, j'ai jamais eu peur. Après, on peut tomber sur des marchands irascibles.
Ça vous est arrivé à Bangkok, je crois.
Voilà, qu'est-ce qui vous est arrivé à Bangkok? Bon, j'ai acheté une pierre par l'intermédiaire d'un courtier, à un prix qui me semblait très intéressant, d'autant plus intéressant que, en fait, le courtier s'était trompé dans le prix. Il m'avait annoncé un prix, et puis évidemment, en négociant très très peu, parce que je sentais que c'était très très bien, donc j'ai acheté la pierre. Et puis deux jours après, le propriétaire, en fait, que je ne connaissais pas, puisque j'avais affaire au courtier, vient me voir et me dit écoute, le prix, c'est pas le bon, il faut que tu me rendes la pierre. Le seul problème, c'est que j'avais acheté la pierre et puis j'étais tellement content de moi que j'avais téléphoné à un client parisien en lui faisant une brève description de la pierre, en lui annonçant un prix qui était très intéressant. Je lui avais déjà vendu la pierre. Donc je ne pouvais pas
la rendre.
Sauf que le monsieur que j'avais en face de moi était un monsieur peu recommandable. À tel point qu'en parlant avec ma famille, père me dit, tu sais, je crois qu'il a déjà tué quelqu'un. Alors,
comment ça s'est réglé cette affaire ?
Alors, comment ça s'est réglé ? Avec le courtier, en discutant, le courtier, à un moment, a donné mon nom. Et en fait, ce marchand me dit, mais c'est vous ? J'ai dit, bah oui, c'est moi. Mais je ne savais pas pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez le fils de... Je lui dis, mais parce que vous ne m'avez pas posé la question, monsieur. Et je lui dis, écoutez, moi, je me suis arrangé, j'ai parlé avec mon client, je vais vous la rendre, la pierre. Et ce monsieur était tellement content qu'on lui rende la pierre, il était tellement désespéré, qu'il m'a même laissé chez ce courtier une enveloppe avec un peu d'argent que je me suis empressé de dépenser chez mon courtier pour le remercier d'avoir organisé ce rendez-vous. Voilà, que j'avais rien demandé, hein, parce que, mais j'avais trouvé que sa façon de faire était un peu brutale, et en fait il s'est calmé uniquement quand il a su mon nom. Voilà, bon, c'est tout.
Ben voilà, comme quoi marchand de pierre depuis 5 générations, c'est ça peut aider aussi. Voilà. C'est quoi votre prochain voyage, d'un mot?
Le prochain voyage, c'est le Sri Lanka, bon. Au mois d'avril.
Et ben voilà, vous y retournez. Soyez prudent. Pour voir des belles pierres. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Simon, et bon vent à vous, à bientôt sur RTL.
Vous écoutez RTL.